Et le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Au menu des discussions entre la ministre du Travail et les partenaires sociaux, le port obligatoire du masque dans les entreprises et le télétravail toujours recommandé. Ils ont rendez-vous ce matin en visioconférence.
Les médecins urgentistes de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor réclament une trentaine de lits supplémentaires. Ils déplorent le manque de moyens face au pic estival de patients. L'épidémie de Covid-19 a aggravé la situation.
Aux États-Unis, la convention du Parti démocrate a commencé hier et elle ressemble à une émission de télévision. L'événement s'organise sur les écrans, faute de pouvoir réunir physiquement des milliers de sympathisants.
Alexandre Loukachenko est de plus en plus chahuté. Des employés des usines et de la télévision publique ont fait grève. Hier, ils demandent le départ de ce président autoritaire au pouvoir depuis 26 ans.
Un joyau de Beyrouth a été dévasté par l'explosion du port. Reportage au musée d'art moderne sur Soc. L'intérieur a été défiguré et des œuvres abîmées.
Manger au restaurant et ne payer que la moitié de la note. L'opération a lieu au Royaume-Uni pour aider ce secteur en difficulté depuis le début de la crise sanitaire.
Elisabeth Borne a rendez-vous avec les partenaires sociaux dans 2 heures. La ministre du Travail veut à tout prix éviter un reconfinement et pour y arriver, le masque pourrait devenir obligatoire en entreprise, comme c'est déjà le cas dans les lieux publics, les transports ou les magasins. Le masque serait indispensable au bureau, partout où la distanciation physique ne peut pas être respectée. Autre solution pour limiter la propagation du coronavirus, le télétravail. La ministre recommande de le mettre en place lorsque cela est possible, notamment dans les zones de circulation active du virus, Catherine Pétillon.
C'est une position en forme d'encouragement qu'a formulée la ministre du Travail, Elisabeth Borne, alors que dans la majorité des entreprises, les nombreuses questions qu'a fait émerger le développement du télétravail restent en suspens. On le sait, les entreprises sont inégalement organisées et les expériences des salariés diverses. Côté avantage, un renforcement de l'autonomie au travail plébiscité. À l'inverse, l'isolement hors du collectif de travail est souvent difficile. À quoi pourra ressembler dans la durée un télétravail plus développé? Le sujet illustre à lui seul l'obligation pour les entreprises de concilier en cette rentrer les nécessités économiques, le risque sanitaire lié au Covid, mais aussi les enjeux de management et de santé au travail. Le gouvernement n'a jusqu'ici formulé que des recommandations. Les partenaires sociaux, eux, ont dressé un bilan au printemps et doivent se revoir en septembre pour discuter d'un éventuel accord interprofessionnel. Le patronat y a été jusqu'ici réticent. Les syndicats de salariés, eux, espèrent un accord rapide, explique Catherine Pinchot de la CFDT.
On voit bien quand même que la situation sanitaire évolue et que le télétravail doit à nouveau être fortement recommandé, voire peut-être malheureusement si la situation sanitaire se détériore encore plus, une nouvelle fois devenir la norme et devenir la règle. Donc nous, ce qu'on espère, c'est que au-delà de la synthèse paritaire, on puisse enfin négocier, renégocier un accord sur le télétravail. Il faut que ça fasse partie d'un dialogue social au sein des entreprises et que l'on regarde quelle est la part de télétravail qu'il est possible, tout en maintenant aussi du présentiel.
Parmi les autres sujets à discuter, estiment les syndicats, les modalités d'acceptation par les salariés, la fourniture de matériel ou encore la prise en compte des travailleurs handicapés. En somme, toutes les conséquences très concrètes pour les organisations de travail.
Catherine Pétillon, le nombre de personnes hospitalisées pour la Covid-19 est en hausse depuis 3 semaines, rappelle le ministère de la Santé. Au cours des dernières 24 heures, les hôpitaux français ont admis 234 nouveaux patients. La hausse se poursuit notamment chez les moins de 40 ans. Il faut faire preuve de discipline, rappelle l'Élysée. Emmanuel Macron était hier soir à Bormes-les-Mimosas pour le 76e anniversaire de la libération de cette commune varoise.
C'est par cette unité, de donner de son temps, mais de savoir que chacun à sa place joue un rôle décisif, que nous pouvons l'emporter. C'est ce que le pays, pendant les mois passés, a su relever. Et c'est ce que nous aurons à continuer de relever dans les semaines et les mois qui viennent, devant la reprise de l'épidémie, face aux difficultés économiques, sociales, face aux crises internationales que notre pays aura immanquablement à affronter. Nous vivons dans une République magnifique, et je le dis à la jeune génération. Elle est généreuse, elle est protectrice. Elle donne beaucoup plus de droits que dans tant d'autres pays, et nous l'oublions si souvent. Mais avant les droits, il y a les devoirs.
Un appel à la prudence et au respect des gestes barrières pour protéger ses proches et aussi éviter l'engorgement des hôpitaux déjà très sollicités, notamment en cette période estivale. À Saint-Brieuc, les médecins urgentistes de l'hôpital Yves Le Foll feront grève à partir de demain. Ils déplorent le manque de lits pour prendre en charge rapidement les patients. Ils en aimeraient une trentaine supplémentaires. Christian Brice est délégué Bretagne de l'Association des médecins urgentistes de France.
Beaucoup d'hôpitaux, pour fonctionner à flux tendu et en dessous même du seuil nécessaire, ils fonctionnent avec des lits supplémentaires. C'est-à-dire que quand vraiment la crise est importante, ils rajoutent dans les chambres à deux lits un troisième lit. Au jour d'aujourd'hui, tous ces troisièmes lits, pour des raisons sanitaires, ont été enlevés au moment du Covid. Et ça, c'était tout à fait logique et légitime. Par contre, ils sont pas réapparus. C'est-à-dire que les hôpitaux ont profité du Covid pour continuer leurs restrictions de lits, leurs restrictions budgétaires et du coup leurs restrictions au personnel. Ben, on se retrouve effectivement avec une équipe complètement usée, de toujours se battre depuis des années pour des choses légitimes. La catastrophe, c'est que les gens, ils dorment dans des brancards, dans des couloirs. Dans la nuit de lundi à mardi dernier, les patients, ils étaient au nombre de 18 à 8 heures, ils étaient encore 14 autour de 9h30, et ces patients-là, en fait, étaient déjà là depuis plus de 16 heures. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont montés en fin d'après-midi, donc ils sont montés dans les 6 ou 8 heures après. Vous voyez, donc on se retrouve avec des délais de 24 heures dans un brancard. Et donc, sous prétexte de supprimer des lits pour le Covid, ils se retrouvent agglutinés dans les couloirs, les uns sur les autres. Pour éviter le Covid, finalement, on va en provoquer des clusters de Covid quasiment au sein des urgences. C'est une catastrophe sanitaire qu'il faut bien appréhender, en fait. Donc, et tous les CH sont en train de payer de ça. Alors, on est le premier CH en grève, mais on ne sera pas le dernier, c'est évident.
Christian Brice, des propos recueillis par Margot Siffer. Un préavis a été déposé pour une durée illimitée. 146 femmes ont été tuées au sein de leur couple l'an dernier, soit 25 de plus que l'année précédente. Un décès est enregistré tous les deux jours, en moyenne, selon l'étude nationale rendue publique par le ministère de l'Intérieur hier. Sans mesures ambitieuses et massives, il ne peut y avoir de diminution des violences, regrette le collectif féministe Nous Toutes.
France Culture 8h07, Margot Delpierre, la convention du Parti démocrate a commencé aux États-Unis.
Et c'est pendant cette convention que sera officiellement investi le candidat Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, aujourd'hui engagé dans la course à la Maison-Blanche. À cause de la pandémie, au lieu de se dérouler devant un large public à Milwaukee, dans le Wisconsin, elle est diffusée sur les réseaux sociaux et les télévisions chaque soir jusqu'à jeudi. À Washington, Grégory Phillips.
Évidemment, ça ressemble plus à une émission de télé présentée hier soir par l'actrice Eva Longoria qu'à une convention traditionnelle. On a aussi parfois le sentiment d'assister à un très long clip de campagne, avec en ouverture l'hymne national interprété par une chorale d'enfants réunis sur l'application Zoom. Mais au fil de ces deux heures de programme, on entend aussi le témoignage de cette habitante d'Arizona qui raconte que son père est mort du coronavirus. Sa seule condition préexistante, dit-elle, c'est qu'il faisait confiance à Donald Trump et il l'a payé de sa vie. Les témoignages d'Américains s'enchaînent, puis ceux des personnalités. Ici la footballeuse star Megan Rapinoe, le tout rythmé par la musique de Springsteen, compagnon de route de longue date du Parti démocrate. Enfin, les discours des politiques, l'ancien rival dans la course à l'investiture, Bernie Sanders, apporte un soutien sans faille à Joe Biden. C'est le futur de notre démocratie qui est en jeu, dit le sénateur du Vermont. Michelle Obama, enfin, conclut ses deux heures d'émission, discours enregistré de l'ex-première dame qui, autour du cou, porte un collier avec quatre lettres, V-O-T-E, et appelle les Américains à tout faire pour élire Joe Biden.
L'élection présidentielle du 3 novembre sera la plus importante de l'histoire de notre pays, a déclaré de son côté Donald Trump. L'actuel président a accusé Joe Biden de vouloir transformer les États-Unis en, je cite, un pays socialiste ennuyeux où l'American Way of Life serait aboli. Aux manifestations quotidiennes s'ajoute un mouvement de grève qui s'amplifie. La désobéissance civile s'organise dans de nombreuses entreprises et usines vitales pour l'économie de la Biélorussie. Les habitants sont de plus en plus nombreux à défier leur président autoritaire. Une révolution s'opère pour réclamer le départ d'Alexandre Loukachenko, estime Valeria Koustava, écrivaine et militante biélorusse très célèbre dans son pays.
Je crois que les Biélorusses montrent au monde qu'ils sont une nation incroyable, qu'ils sont très très amicaux et pacifiques. Maintenant, dans chaque immeuble, dans chaque entreprise, il se passe des miracles étonnants quand chaque habitant de la Biélorussie se lève. En fait, chacun réalise son petit exploit pour la liberté de son pays. Les ouvriers sortent des usines et ce miracle se reproduit dans chaque équipe, une sorte de révolution des cœurs. Et le plus important dans le pays, c'est que les gens ont fini par comprendre que les changements sont possibles et qu'on a atteint une masse de gens suffisante qui ont compris que les sources officielles ne disent pas la vérité.
Valeria Kustava, un témoignage recueilli par Antoine Balandra. Alexandre Loukachenko a répété qu'il ne comptait pas abandonner le pouvoir. « Tant que vous ne me tuerez pas, il n'y aura pas d'élection », a-t-il affirmé, avant de se dire prêt à en organiser une autre, mais après l'adoption d'une nouvelle constitution. La justice libanaise a émis hier un mandat d'arrêt contre le directeur des douanes. Le juge chargé d'enquêter sur l'explosion meurtrière du 4 août souhaiterait l'entendre sur le stockage des 2700 tonnes de nitrate d'ammonium conservées dans un entrepôt sans précaution. L'explosion a fait au moins 177 morts et dévasté la ville. Les musées ont aussi été touchés, comme le musée d'art moderne sur Sok dans le quartier historique d'Achrafieh. Aurélien Colli a visité ce qu'il en reste.
Construit en 1912 par la famille Sursok, le musée du même nom est un joyau de Beyrouth. Une bâtisse caractéristique du style libanais mêlée aux inspirations ottomanes et vénitiennes. C'était aussi le seul musée d'art moderne avant l'explosion du 4 août.
Le souffle est entré et est ressorti de partout.
Zeina Arda, la directrice.
Toutes les fenêtres et toutes les portes jusqu'au moins 4. La première nuit était une nuit terrible parce que le bâtiment était complètement ouvert de tous les côtés et les œuvres étaient encore dedans.
Les œuvres sont mises à l'abri le lendemain par l'équipe du musée et par une poignée de bénévoles passionnés, comme Gilbert, la trentaine, il est architecte muséographe.
J'étais tellement ému de voir ce beau musée qui a été soufflé. Tu vois, on était en train de marcher sur des vitres par terre, des châssis d'aluminium, du bois, enlever les œuvres, aller les ramener vers les réserves, aller sécuriser. On voulait absolument sauver les œuvres.
Le musée sur Sok est désormais une coquille vide. Sa façade et ses vitraux ont été pulvérisés. Son salon arabe de 1920 défiguré et au moins une vingtaine d'œuvres abîmées, notamment un portrait de Nicolas Ibrahim sur Sok à l'origine du musée, une toile de 1930 du Hollandais Kees van Dongen, auscultée aujourd'hui par la restauratrice du musée.
Quand même, c'est une grande déchirure de 55 cm et oui, il faut la bien restaurer, fil par fil probablement. Je suis en train de faire le constat d'état pour l'envoyer à des experts pour qu'ils nous proposent des restaurations. Et ça va prendre beaucoup de temps.
Il faudra aussi de l'argent, plusieurs millions de dollars, estime la directrice Zeina Arda, déjà contactée par des mécènes et des organismes étrangers, comme le Centre Pompidou ou le Conseil international des musées.
Aurélien Colli. À chaque pays, sa façon de réagir face à la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19. De son côté, le gouvernement britannique a lancé la campagne Eat Out to Help Out, comprenez, sortez manger pour aider, pour soutenir les restaurants du Royaume-Uni durement touchés. L'opération, d'un montant de 550 millions d'euros, permet aux clients de manger à moitié prix. Le reportage à Londres de Maxence Peignet.
Les rues de Londres reprennent peu à peu des couleurs en cette fin d'été. Il faut dire que pendant tout le mois d'août, c'est le gouvernement qui régale et prend en charge la moitié des notes de restaurant du lundi au mercredi. Bien évidemment, cela n'inclut pas l'alcool et se limite à 11 euros par repas. Mais ce coup de pouce réjouit Sam Christensen, gérant du café The Attendant.
Cette nouvelle aide a entraîné une hausse impressionnante du nombre de clients. Nos ventes ont doublé sur les débuts de semaine. C'est financièrement bénéfique pour nous et pour tous ceux qui commencent à ressortir.
Plus de 10 millions de repas ont ainsi été subventionnés dès la première semaine du dispositif. Ce londonien, heureux de retrouver les terrasses, en a profité plusieurs fois.
J'ai vu pas mal de très bonnes affaires et je suis beaucoup sorti manger depuis le lancement du programme. Ça ramène un petit peu de normalité à Londres. On voit les cafés et les restaurants presque pleins.
Cette mesure est censée aider un secteur pour lequel travaillent 1 800 000 Britanniques. Kate Nichols dirige l'organisation professionnelle UK Hospitality.
Ça a été une bouée de sauvetage pour beaucoup de restaurants. Leurs activités ont bondi d'un tiers en une semaine. Mais les aides s'achèvent bientôt et le secteur aura besoin de plus de soutien pour sauver ses emplois.
En 2020, 22 000 personnes ont déjà été licenciées dans la restauration au Royaume-Uni, soit deux fois plus que sur toute l'année 2019.
Maxence Peignet, et puis on l'apprend ce matin, la chaîne de magasins britannique Marks & Spencer annonce qu'elle va supprimer 7000 emplois. Ryanair va réduire de 20% ses vols en septembre et en octobre. Les réservations sont en baisse, toujours bien sûr à cause de la crise sanitaire. Ryanair avait jusqu'à présent prévu de ne tourner qu'à 70% de ses capacités à la rentrée. Nous y reviendrons dans le journal de 9h. Un léger mieux aujourd'hui dans le ciel, mais toujours de la pluie, des orages sont attendus dans le Grand Est. Côté température, comptez cet après-midi 23 degrés à Lille, 24 à Strasbourg, 25 à Tours et Bordeaux, 28 à Lyon et 29 degrés à Montpellier, Chloé.